prendre le temps, prendre du recul, écouter les autres et s'inquiéter pour eux. Sortir de soi et se concentrer sur ceux qui nous entourent. Aller à leur rencontre et les faire parler. Les laisser nous rencontrer et nous faire parler. Les aimer malgré leurs bizarreries, leurs différences et nos incompréhensions. Les aimer surtout pour leur facétie, l'univers infini de leurs pensées et nos incompréhensions. Confinée, j'ai compris que le lien avec certains, certaines était nécessaire, absolu et normal. Avec toi, Christian, il s'est établi tout doucement. Tes réflexions ont suscité ma curiosité et j'ai apprécié te lancer sur des grands questionnements existentiels, t'écouter parler. Quand mon fils est né, tu m'as dit, alors que je pleurais au bout du fil, « Tu es une bonne maman, il le sait, et toi aussi. » Pour me rassurer et me faire rire, tu me racontais toujours cette blague, celle de la mère juive qui attend son fils à la gare et qui demande au contrôleur « Vous savez à quelle heure il arrive le train de mon fils ?» J'aime me la répéter et penser à toi quand je suis avec Ismaël, que tu as gâté à distance et couvé de 1000 conseils à sa maman. Quand j'ai appris ton décès, il était là. Je lui ai expliqué que tu étais partie. Et il a dit « Maman, tu sais, un jour on le reverra. » J'imagine ta tête et ton sourire, l'éclair dans tes yeux. Tu vois, ils comprennent tout. Et te voir partir avec ce sourire et cette certitude que le monde est si beau, si complexe et si gorgé de ressources. Lors de notre dernière conversation, on planifiait un verre en terrasse où vous auriez fait connaissance. Tu me laisseras l'emmener à Seyon pour jouer ? Tu me demandais toujours. Et je repoussais, mes week-ends toujours super chargés. Et là, je me dis, j'aurais dû prendre le temps. C'est peut-être ça d'ailleurs, la leçon de tout ça, le temps. Comment lui accorder une importance majeure dans nos relations avec les autres ? Le temps, nous l'avions pris lors de ton dernier passage à la radio, au soleil, dans la cour, à parler de Freud, de psychanalyse, de lecture et de celui que tu appelais pour rire, bébé. Ça me fait sourire quand j'y repense. J'ai hésité à t'envoyer un commentaire sur son dernier titre. Ironie du sort, il s'appelle « Comment est ta peine ?» Ma peine ? Pour tout te dire, elle est grande, immense. Je perds quelqu'un que je connaissais peu, mais dont j'avais tant à apprendre. Une ressource, un grain de sable dans les rouages de mon cerveau si bien ordonné. Une petite étoile qui clignote et m'incite à ne pas m'endormir sur mes lauriers. Cher Christian, cette émission est pour toi, avec tous ceux qui t'ont connu, aimé et qui ont envie de te partager. Chers auditeurs et auditrices de Radio B, c'est une émission spéciale que vous allez entendre. Nous rendons aujourd'hui hommage à Christian Lux, animateur sur notre antenne depuis ses débuts. Christian nous a quittés au printemps et nous lui devons cette émission.
J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais je savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine ? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va.
Je m'appelle Alain Moreau, j'ai dirigé le Théâtre de Villefranche et depuis 2 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Arbout en compagnie. J'ai rencontré Christian parce que lui et moi, nous faisions notre métier, lui couvrant l'information culturelle de la région et moi faisant en sorte que mes projets soient connus dans tout le territoire et qu'on collabore en bref. Je me souviens d'un homme peu qualifié de rare, hein, quelqu'un qui avait de l'humour et qui semblaient aimer la vie et qui étaient d'une grande gentillesse, de qualité qui sont assez rares chez un être humain. Et si on rajoute que ce garçon m'apparaissait comme être un être extrêmement délicat et un humaniste, c'est quelqu'un que j'aimais bien rencontrer. Et les moments qu'on a passés ensemble étaient des moments savoureux, et notamment avec André Robillard, puisqu'il avait la gentillesse de nous inviter à déjeuner avec André Robillard, qui est quand même un secret personnage, et tout ça s'est passé simplement chez lui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la douceur, la gentillesse, et puis l'attention aux autres qu'avait cet homme-là. Il avait en plus une excellente connaissance du monde de l'art, et il avait cette attention particulière qu'ont certaines personnes en direction des gens qui sont différents, parce que moi je défends beaucoup avec mon association des artistes qui sont en situation de handicap et des artistes d'art brut, donc qui sont à la marge, et ces gens-là l'intéressaient, et toutes ces qualités réunies en un seul homme me faisaient beaucoup apprécier Christian Lux.
Et nous écoutons André.
Voilà, André Robillard, c'est la fête. Hein.
Voilà. Nous vous écoutons, André, et nous finissons.
Et c'est drôle, dans ma nature, moi, c'est marrant, je me porte partout, dans toute la distance. Mmh. Et sitôt que j'aime quelque chose, c'est comme si j'étais attaché à ce que j'aimais.
Bien sûr.
Et je ne me trompe pas là-dessus. Hein.
Mmh. Hein bah oui.
T'es un passionné, André.
Ouais.
Il y a une vingtaine d'années, Joël, une amie, me propose de rencontrer un de ses collègues férus de littérature et de création artistique. C'est le début d'une belle complicité créative avec Christian Lux. Elle vient de s'interrompre brutalement. Notre projet d'exposition et d'édition Echo, qui réunit ses textes et mes dessins, restera inachevé. Dans notre dernier recueil, il écrivait « Le temps ne s'enfuit pas. C'est nous, les humains, qui nous enfuyons vers la mort. Certes, nous cultivons le fantasme de l'immortalité et nourrissons la certitude quasi paranoïaque d'éternité. L'homme ne se voit pas, ne se veut pas, ne se vit pas comme mortel. La vie d'un artiste plasticien tend à se polariser entre la nécessaire solitude de l'atelier et l'espace médiatisé de ses expositions. Par la qualité de son écoute, son enthousiasme, sa grande culture et la richesse de son écriture, Christian savait créer le lien entre ces deux territoires. Jean-Jacques Delmet, le 10 juin 2020.
Christian avait eu l'idée pour Radio B de préparer une émission musicale. Il n'a pas eu beaucoup de mal à nous convaincre, Bruno Point et moi-même, de travailler cette question avec lui. Car ses goûts étaient particulièrement éclectiques. Il aimait la peinture, la littérature, la poésie et la musique. Et nous avons intitulé cette émission « Musique au pluriel » parce que ses goûts le portaient à une certaine universalité. Sa chaise est vide et elle restera vide. Bruno Point et moi-même avons décidé de continuer cette émission et il sera en pensée toujours près de nous. Et nous pensons, lui qui aimait les belles lettres, à Victor Hugo, « Absentes ad sunt », les absents sont là, les absents sont présents. Et également dans les contemplations, où Victor Hugo écrit que les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Et pour finir Tacite, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. En cela, Christian, reste en nous, dans notre pensée, et il sera donc présent dans les émissions qui viendront par notre pensée. Vous allez maintenant l'écouter, présenter un extrait de l'émission que nous avions consacrée à Francis Poulenc, et notamment à Éluard, parce que Francis Poulenc avait transcrit en musique des poèmes d'Éluard.
C'est donc autant du côté des musiciens que celui des poètes et même des peintres qu'il a mis en musique sur des poèmes d'Éluard, Picasso, Chagall, Braque, Miro, Klee, que Francis Poulenc a recueilli les leçons qui lui ont permis de faire entendre une voix entre toutes personnelles, celle d'un musicien à qui l'on doit quelques-uns des plus beaux cycles de mélodies pour chant et piano composés au XXe siècle. Poulenc, vous l'aurez sans doute déjà entendu et compris, était un dévoreur de poésie. Sa bibliothèque en témoigne. Après 1930, il ne se sent à l'aise qu'avec les poètes qu'il a connus, dont il a entendu la voix résonner dans sa tête. Celle des Loirs était chaude, douce et violente tour à tour. Les deux hommes se sont toujours fascinés réciproquement. Éloire était pour Poulenc le seul surréaliste qui toléra la musique et toute son œuvre est vibration musicale. En 1935, c'est l'année du premier concert à Paris du duo Bernac-Poulenc et des premières mélodies sur des textes de Paul Éloire. Il est donc dit que ce poète-là l'accompagnera pendant de longues et longues années. Aussi, en 1935, « Tel jour, telle nuit » et « Les cinq », la mélodie sur des poèmes d'Éloire, des cinq poèmes que nous allons écouter. Entre autres, « Plume d'eau claire »,« Plume d'eau claire, pluie fragile »,« Fraîcheur voilée de caresses, de regards et de paroles », Amour qui voile ce que j'aime.
Miroir de jeunesse, un ange aux yeux bicolores pour chemin de vie. Ashes to ashes, le plic-ploc de la pluie sur le toit en zinc. Daniel Borner.
Bonjour, je suis Marie Morel, je suis peintre. Christian est mort. Je reste sidérée devant la disparition totale et définitive d'un ami si cher. Il était là et pour moi c'était évident qu'il était immortel, car il était si lumineux, si présent et attentif, si passionné par l'art et la littérature. Mais voilà, il est mort brutalement. Et c'est le vide absolu. C'est un désastre. Je pense particulièrement à sa compagne Laure, qui l'a rendu si heureux les dernières années de sa vie. Pour ma part, j'ai une sorte de rage qui m'envahit, avec une puissance de vie encore plus énorme. Il faut vivre, immensément vivre, pour tous ces morts qui ne vivent plus. C'est la seule réponse qui me soutienne contre la mort qui nous guette tous, contre cette destruction qui me prive à jamais de celui que j'aimais tant. Vivre encore plus. Tant qu'on est vivant, créer de plus en plus. Augmenter le bonheur. Augmenter l'attention aux autres. Augmenter l'amour.
Mon cher Christian, nous nous sommes rencontrés autour d'un homme exceptionnel il y a plus de 40 ans sur un projet d'accueil d'enfants. Ces années-là étaient enthousiastes et utopiques. Quelle chance nous avons eue. Je venais de créer avec trois autres Radio Tropique qui deviendra Radio B. Il nous a rejoint très rapidement en 1981, je crois, pour faire partager tes découvertes musicales. Tes goûts, alors, allaient de Bachung à la New Wave anglaise. L'univers sonore des radios dites libres à l'époque était un peu comme celui d'aujourd'hui, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, fabriqué par le commerce. tu proposais autre chose délibérément. J'ai quitté Bourg-en-Bresse et nous nous sommes rencontrés plus épisodiquement sur la terrasse de chez Jeannine, rue Victor Bache, ou chez des amis communs. Lors de notre dernière soirée ensemble chez une amie qui venait de publier un recueil de ses poèmes, l'idée de consacrer à ceux-ci une de tes émissions est née. J'ai sélectionné ceux que j'aurais aimé lire et le confinement nous en a empêchés. Tu étais enthousiaste, toujours enthousiaste, animé du désir et du plaisir de découvrir, explorer et puis de partager. Tes goûts s'en sont trouvés tout chamboulés, littérature, arts plastiques, musique. Tu étais un passeur de culture, mon cher Christian. Je vais lire pour toi un des poèmes que je devais lire dans ton émission, un poème du recueil Au fil du temps de notre amie Anne-Marie Vourla qui a organisé notre dernière rencontre. Ce poème a pour titre « Dernier acte » et date de 1980.
Jean-François Michon.
Étouffante, et vous, vieille haine, surgit de mes tripes fripées, bataille de clowns acidulés, sacre bleu, tombez, piètre reine. Rêves effilochés, mi-morts de faim, mendiant des horizons, carton-pâte, ôtez vos galons racornis, je vous lance un sort. Et tous vos pères, regrets, tourments, un certain pari du stupide, voleur de temps, graveur de rides, je ne vous dirai plus au vent. En moi perce une lumière blonde, un espoir cru, un soleil rose, une herbe fragile y repose, pareille à la beauté du monde.
Flotte un air de rock, un débat vif, coloré, une fenêtre s'ouvre. Petit grain de sable, façonné en verre soufflé, magie d'une rencontre. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Destroy. He'll reach deep into the hole
heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Je suis pédopsychiatre. Alors, moi, je suis arrivée dans ce service il y a 6 ans maintenant. Et Christian travaillait encore. On travaillait pas dans la même équipe, mais on travaillait dans le même secteur. Donc, lors de journées d'études, de soirées de travail, on se croisait. Et voilà, c'était quelqu'un vraiment très avenant, donc du coup ça se faisait très très rapidement. On s'est mis à discuter, à rigoler, et puis très vite il m'a proposé d'organiser ce qui s'appelle maintenant les matinées cliniques, dans un souci de formation, de transmission. Christian avait à cœur, voilà, avait à cœur de transmettre ce qu'il faisait, ce qui orientait son travail, et de mettre aussi les soignants au travail, parce que pour voilà, aborder la folie, pour garder un regard humaniste sur la folie, il faut se former. Et donc ça a démarré très vite comme ça. On a fait une première matinée ensemble. J'ai le souvenir qu'on faisait une bonne équipe, parce que moi je suis plutôt très scolaire, on va dire, et lui voilà, plutôt poète. Il a toujours tout un tas d'anecdotes, tout un tas de digressions qui rendent les choses très vivantes. Je sais que à l'issue de cette première matinée de présentation, donc il était très enthousiaste et puis foisonnant d'idées. Et puis lors de cette matinée, il avait beaucoup parlé de Charles Juliet, qu'il aimait beaucoup. Voilà, on discutait. Alors tout de suite, oui, ben, on va faire venir Charles, je vais lui en parler, etc. Et puis vous savez, on laisse un peu parler, oui, on verra ça, bien sûr, on fera ça, bien sûr, on fera ça. Mais lui, il rigolait pas du tout. Donc, je me souviens qu'un dimanche matin, je faisais du ski, voilà, en Chartreuse. Coup de téléphone de Christian. Bon, ben c'est bon, Charles est d'accord, ça va pouvoir se faire, on organise ça. C'était ça, Christian, ça allait très vite. Ça allait très vite, et puis les choses se faisaient. On n'avait même pas le temps de se demander si ça nous faisait peur ou quoi. On y allait, et sa présence était très rassurante. Donc c'était très facile, finalement. Je l'ai pas assez connu, moi. C'est ça que je retiens, c'est que je suis très frustrée, très en colère de cette mort scandaleuse, parce que voilà, j'ai pas eu le temps vraiment de profiter de lui, ni en tant que collègue, parce que je crois que voilà, dans le monde de la psychiatrie, c'est quelqu'un de qui a compté, en tout cas à l'échelle du département. Son regard humaniste sur la folie, c'est quelque chose de très important. Dans une équipe, il faut quelqu'un comme ça, un poète qui nous et une grande culture aussi. Ça, c'est très important dans le travail. Donc déjà, en tant que professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui va manquer. Puis en tant que personne, c'était quelqu'un d'extraordinaire, très très à l'écoute, très bavard, mais très à l'écoute malgré tout, passionné de la rencontre interhumaine, en fait, passionné de l'humain, donc très très riche, très curieux, très très drôle. Voilà, moi, son humour va beaucoup manquer, et puis son ouverture d'esprit. C'était pas quelqu'un qui aimait tout le monde, hein. Il pouvait être très sévère avec les faux semblants, avec les gens qui récitent. et à côté de ça, vraiment très, très ouvert.
Mon cher Christian, décidément, je ne me serais adressé à vous qu'en vous sachant dans les étoiles. Depuis notre première rencontre jusqu'à votre brutale disparition. L'usage du « vous » entre nous, vous y teniez, comme à une solennité légère et précieuse, bien faite pour rappeler la précarité de chaque instant. Car, si vous preniez en main votre destinée, désireux de conduire votre vie à votre guise, en construisant chacune de ces étapes avec le plus grand sérieux, vous aimiez garder cette distance ironique avec votre personnage social, distance qui vous maintenait du côté des éveillés. Le parallèle entre nos deux parcours vous amusait. Infirmier psychiatrique, spécialisé comme on a dit plus tard en entrant dans l'ère de l'euphémisme que vous n'aimiez pas, puis psychologue. C'est là que nous avons fait connaissance, au-dessus des berceaux d'une crèche où j'officiais et où vous êtes venu faire votre stage. Évidemment, pour vous, s'intéresser comme cela à ces petits à l'orée de leur vie n'était pas un hasard. Vous aviez le souci qu'ils entrent dans cette vie en pouvant poser résolument les pieds sur terre, sur un sol suffisamment solide et sûr. Sol, vous le saviez, pas toujours propice aux bons enracinements. Il est vrai que vos racines terrestres pouvaient, à vous, sembler fragiles. À cette précarité-là, vous avez su répondre de la meilleure façon, très poétique. Telles les orchidées, vous avez développé tout un réseau de racines aériennes. Belle adaptation propice à de belles floraisons. Très vite, vous m'avez fait connaître votre amour de la poésie, de la littérature et de Charles Juliet. En effet, votre exploration des frondaisons devait être multiple, toujours profonde, toujours sérieuse, toujours fouillée et généreusement partagée avec les autres. Lire, oui, mais il vous fallait aussi écrire, payer de votre personne. Professionnellement, c'était pareil. Le travail au quotidien, bien sûr, mais aussi l'étude en continu, les groupes, la recherche, encore l'approfondissement et le partage. L'importance du détail oublié, mais, surtout, des liens à opérer. Des ponts à établir pour dévoiler de nouveaux champs de compréhension, de savoir, d'éclairage. Nous nous sommes perdus de vue, la vie est comme ça. Et nous nous sommes retrouvés, sans étonnement sur un autre dada partagé sans que nous le sachions jusqu'alors, l'art. Pour vous, en grand, musique diverse et art plastique, autant dire l'univers. Et là encore, pour vous, au service des autres. Il ne suffisait pas d'aimer, il fallait partager l'enthousiasme, l'émotion, l'interrogation, la joie suscitée par l'œuvre, par les artistes eux-mêmes. Quoi de mieux que la radio pour cela ? Alors vous êtes devenu animateur, intervieweur. Vous passiez des heures à préparer vos émissions, pas dans la crainte de ne pas être à la hauteur, mais dans celle de ne pas rendre justice à vos invités. En tout cas, c'est comme ça que je vous ai connu, tenace, droit, engagé, partageux des biens intellectuels et culturels. Christian, ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup semé. À tous ceux qui ont croisé votre route ou qui croiseront vos sillons de récolter, longtemps encore. La vie ne s'arrête jamais dans les étoiles.
Pas du luxe, l'art, mais volupté avec luxe. Les bambous frémissent. Un terrible orage éclate au cœur du printemps. Et puis, quel silence. Ta voix traverse les ondes. Là-haut, souris-tu encore ? Haïku et Tanka de Martine Lenormand.
De la part de Marie-Thérèse Ferrand, petit commentaire pour évoquer une belle amitié bugiste. À Radio B. Lyon, le vendredi 27 juin 2020, parce que tu aimes les lettres. Parler un peu de toi, de ta vie, n'est pas un luxe. Ce n'est ni plus ni moins qu'une restitution d'identité. Un chant apaisant pour l'éternelle vie. Tu le sais, cela mériterait au moins un nouveau livre. Avec tendresse, très chère Christian, je voudrais t'aborder comme un très jeune enfant, ou effleurer de ma voix la joie grave de ton feuillage d'arbrisseau de distant. Celui qui aura bravé toutes les tourmentes pour parvenir à grandir dans une forêt qui n'a pas pu le reconnaître tout à fait, qui n'a pas su le nommer enfin de le rassurer suffisamment. Je te dédie avec émotion ces quelques paragraphes. J'avais écrit 4 fois plus long, mais à la radio, On me dit que ça ne passe pas, qu'il nous faut prendre des raccourcis pour parler de toi. Vous allez les perdre en route, me dit Elandi. Cela résonne étrangement. Bien sûr, je conçois que nous sommes nombreux, nombreuses à vouloir témoigner. Un vrai récital a programmé une gageure en section de 3 minutes. J'aurais dû écrire une chanson, finalement. Je n'en ai pas eu le temps. Alors il faudrait refaire une grande fête, au Château des Animes, par exemple. Tiens. Survoler ton récit de vie est donc une nécessité technique, un exercice de condensation acrobatique. I believe you can fly. Je crois que tu peux planer. Andy, tout. Et moi aussi. On va réessayer. Alors je recommence à gribouiller en renonçant à mon abécédaire que je concocte pourtant depuis des mois. Je le troque en inventaire, une liste de commissions en vrac. C'est pourtant toi qui m'en avais donné l'idée. Tu voulais écrire un abécédaire à propos de l'œuvre de Charles Julliez, notre ami, si bien partagé. Pour que tu m'entendes mieux, j'aimerais conserver les zestes de mon vieil accent du midi, celui des cigales. J'aimais beaucoup le tien, celui de l'âme récent, ses intonations savoureuses. J'ai finalement le désir un peu zinzin de te rendre les mérites que tu as longtemps omis de lancer en avant devant tes amis, tes amours et tes proches. Tu ne souhaitais pas prendre la lumière, sauf à la fin de ton parcours. Tu aimais écouter les autres. Tu en as fait ton métier, puis ton vif plaisir radiophonique, ici, à Radio B, avec ton émission. L'art, c'est pas du luxe. Je salue ta détermination dans la reconstruction d'un destin acceptable, après tes déboires, dérives, douleurs et dons de soi, à foison. J'approuve ta frénésie d'action au fil de rencontres littéraires et artistiques que tu as su créer afin de donner au plus grand nombre cette nourriture dont a parlé Charles Julliez tout au long de son œuvre. Dans son sillage identificatoire vers tes 50 ans, tu as sans doute fait, après celui de ta naissance, le second, le deuxième, plus grand pas de ta vie. Un redoutable saut dans le vide. En allant consulter les archives de ton adoption, tu as connu le vertige généalogique à travers la découverte partielle de ta propre tragédie. Ta propre tragédie, tu as forgé et conforté ta propre gratitude envers ta famille adoptive, laquelle t'a permis, comme celle de Charles et de Jurieux, de grandir en surpassant ton chagrin, tes peurs et ta colère légitime.
And time
lundi 29 juin 2020. Mais puisque tu es là, je veux bien te redire. J'ai bu tout comme toi au seuil des vieux silences. J'avais écrit ça dans Rétrospective Alliance, un petit recueil de poèmes. Comme moi, tu as travaillé dans un hôpital en tant qu'infirmier psychiatrique. Tu es devenu psychologue clinicien. Tu as croisé et soigné des personnes éprouvées, des enfants notamment. Tu les as accompagnés dans leur histoire, leur trajectoire. Tu as su accueillir et tenter de consoler la détresse d'êtres uniques, tout autant fraternels et courageux, des semblables aussi démunis et résilients que toi. Je souligne ton caractère incandescent, ta fougue et ta bougeotte, ton ouverture extrême à l'inédit, y compris dans tes ultimes choix de vie. Je me souviens de tes qualités de grand lecteur attentif, des pages magnifiques que tu as adressées autrefois à Charles, sans pour autant mieux te faire connaître de lui. Tu n'osais pas le déranger. Ainsi te voyait-il virevolter quelquefois comme un insecte épris et captif dans la lumière d'une lampe attirante. Vous parliez rugby. Ta remarquable mémoire des noms de joueurs vous rapprochait. Liens coupés, lettres en suspens, livres encore à venir. J'espère encore aujourd'hui voir publier tes textes aboutis. Ces fameuses lettres à la mère d'ignorance, ta mère de naissance que tu m'avais adressée, en propre destinataire, je le suppose, peu avant ton grand départ. Qui en prendra soin désormais? Ces archives muettes exhumées, qui les publiera en mémoire de toi? À mon tour, j'ai le goût d'employer tes propres expressions. Cette notion d'oubli des limbes de l'existence. J'oublie de t'oublier, écrivais-tu dans ton carnet, phrase adressée à ta mère identifiée mais jamais rencontrée. Source maternelle emmurée à perpétuité. Et pourtant, tu ressasseras afin de pouvoir t'exclamer un jour. Mère, je suis ta sentinelle. Mère, je suis ta sentinelle. J'entends distinctement ta voix éplorée, vulnérable, encore faible, mais audible, dans ce carnet violet, porté en permanence dans ton manteau d'hiver, dans ta veste d'été. C'est là où tu consignais secrètement des paroles à la mère et peut-être auparavant à l'amoureuse. Toutes sortes de lettres en poste restante, le vide de l'absence les a fait surgir. Ta quête d'amour n'a pas de limite. Tu y as déposé cette vie consignée, relatant la situation familiale originaire, difficile, celle qui a conditionné et précédé le traumatisme indélébile de la dispersion graduelle et irréversible des petits luxes donnés et non abandonnés, du moins l'espérais-tu, longtemps après, par empathie pour eux. Des frères et sœurs de naissance, Guy, Gérard, Joël, confisqués à ta tendresse et à celle de tes parents. Dès lors, ta joie grave d'avoir vécu quand même rejoint à présent celle de Charles. Je sais que tu ne t'en sépareras jamais. Elle est durablement gravée au-delà de ta mort prématurée. Je la ressens physiquement et je vois ton sourire qui la dorlote. Je perçois de surcroît ta douceur, ton infinie douceur. Ainsi je te vois homme mûr, apaisé, apaisé, je te le souhaite. Ciao Christian, on se retrouvera chez la jambe à Bourg-en-Bresse ou ailleurs. Maintenant c'est toi qui décides. Mais moi, mes mots te quittent dans le halo précieux de ton éclairant passage sur terre. S'agissant de toi, mon bel ami bugiste, ils ne m'ont pas manqué. Très cœur, mais pour tes obsèques, début mai, en pleine crise pandémique, je regrette tristement de n'avoir pas pu le rejoindre jusqu'au cimetière de Corvessia. J'irai bientôt fleurir ta tombe, qui est celle où se trouvent des membres de ta famille d'adoption, et nous tapoterons encore. Bavard, confidentiel, inguérissable, en souvenir de tes bonnes ondes sur Radio B. Marie-Thérèse, ton amie de Lyon.
Notre amitié a d'abord commencé par 4 lettres qu'il m'avait écrites, des longues lettres qui sont d'ailleurs parues aux éditions Calligramme. Et la première lettre date de septembre 1996. Et après, bien sûr, une amitié de 20 ans s'est développée. Il avait lu mon journal, et bien que forcément nous ayons des histoires différentes, il avait trouvé de nombreux points communs entre son histoire et la mienne. Donc, avant même de m'avoir rencontré, il sentait que nous étions proches. Quand on se rencontrait, on se disait à peine bonjour parce que il était tellement impatient d'engager la conversation sur le sujet qu'il avait en tête. Donc très vite, il sautait dans cette conversation, tout à fait spontanément. Il y avait toujours beaucoup de spontanéité et de liberté dans nos échanges. Hein. Mais lui-même, il restait très énigmatique, parce qu'en fait, je pourrais presque dire qu'il ne m'a jamais parlé de lui intimement, vous voyez. Néanmoins, on avait des échanges très, très fournis et très riches. Mais c'est vrai qu'il ne parlait pas de lui, il ne se racontait pas. Nous parlions de nos lectures, de l'écriture, de tout ce que nous avions en tête, et puis des problèmes qui nous préoccupaient, notamment de l'écriture aussi, parce que moi je l'engageais vivement à écrire, donc on avait beaucoup de choses à dire sur ce plan-là, et j'avais même appris que actuellement, je crois qu'il préparait un abécédaire à partir de certains mots qui reviennent le plus souvent dans mes textes. Et je crois, accaparé par ce travail. Je vais vous lire un tout petit texte pour qu'il soit plus présent entre nous, qui est emprunté à la dernière des lettres qu'il m'avait écrites. Mais je dois dire aussi que il avait une mémoire étonnante du sport, du cyclisme et du rugby notamment. Et il pouvait vous citer le vainqueur d'une course qui avait eu lieu il y avait 20 ou 30 ans. Mais tout ça, évidemment, c'était un à côté. Je crois que le plus important, c'est qu'il a été, je crois, un très bon thérapeute. Parce que vous saviez qu'il était un psychothérapeute. Et on peut peut-être dire maintenant, enfin, qu'il avait été abandonné à sa naissance. Donc il avait une expérience de l'abandon et de la souffrance. Ce pourquoi il savait écouter, il savait aider les parents et l'enfant qu'il recevait, il savait les aider à dire ce qu'ils avaient peine à exprimer. Il avait une grande empathie et il savait aller au-devant de ce que ces personnes souhaitait dire, mais sans arriver véritablement à les exprimer. Nos rencontres étaient toujours pleines de jovialité et de vivacité, vous voyez. On était des amis, mais on était des copains aussi. Hein, et tout ça était toujours très, très, très libre, et la conversation allait et venait. Donc, si vous voulez, je peux lire un tout petit texte emprunté à la 4e lettre qu'il m'avait envoyée en 96. La désespérance est-elle un chagrin inconsolé d'une enfance blessée? Et les sentiments de vacuité, l'impression d'un lent désert intérieur, cette eau boueuse qui noie le solitaire égaré en ses doutes et ses ombres, est-elle naufrage de la conscience, déchirante manifestation, expression du désamour de soi, d'une impuissance à être? Elle est nue de nos jours. En quoi est-elle plus pesante qu'un noir désespoir? Parfois, l'objet d'amour perdu la nourrit. Quel est le premier, le vital objet d'amour? Qu'en est-il vraiment de cette présence éloignée? Que pourrait-elle nous apporter que nous ne trouvons pas en nous ni au dehors? Et c'est donc un texte de Christian. Bien sûr, j'avais beaucoup d'amitié pour lui, dans la mesure où je le sentais proche de moi et où j'étais proche de lui. Et il y avait entre nous ce terreau commun d'une enfance qui avait mal commencé, si vous voulez, d'une enfance qui avait été un peu bousculée dès le départ. Donc, je dirais qu'on se comprenait à mi-mot en raison d'une même expérience.
Charles Juliet.
J'ai cherché ton nom sur l'interphone. Tu attends ma visite, tout est convenu. Tu réponds en m'indiquant l'étage et la porte, mais la nouveauté, l'appréhension peu justifiée me fait tout oublier. Ta porte est ouverte. Lumière douce et accueillante, elle indique le chemin sur le palier. Ton accueil est chaleureux. Je me retrouve dans ton antre. Une pièce un peu sombre en cette fin d'après-midi. Tous les murs comportent des étagères de livres. Ton bureau éclairé n'est pas rangé. Tu me fais m'asseoir et me demandes des nouvelles de ma famille. Effectivement, si je suis là, c'est parce que tu connais mon petit frère, camarade de ton fils, et ma mère, que tu croises régulièrement à ton travail, à qui tu n'hésites pas à parler des événements culturels susceptibles de m'intéresser. Je ne sais plus exactement comment tu as su que je faisais des études de lettres. Comment tu as commencé à t'intéresser à moi. Mais cela n'a pas trop d'importance. Tu es comme cela. Partager ton amour de la culture, communiquer des dates de vernissage, ou plus particulièrement, évoquer Charles Juliet, ton ami. Ce dernier est d'ailleurs l'objet de notre conversation. On est en 2000. J'ai un mémoire professionnel à travailler. Je souhaite faire venir un écrivain dans ma classe, montrer à mes élèves que la littérature n'est pas une langue morte, qu'à notre époque encore, il y en a qui prennent la plume. J'ai frappé à la bonne porte. Mon projet te touche, par l'objectif que j'ai, mais aussi parce que l'écrivain que doivent rencontrer mes élèves est Charles Juliet. Tu me racontes votre correspondance, vos cheminements, vos nombreux points communs. Je sens dans ta voix toute l'admiration que tu lui portes. Moi, je ne connais rien de lui encore. Alors j'apprends grâce à toi. Tu me parles de son histoire, de sa mère qui est morte là où tu travailles, de sa passion de l'écriture, de ses rencontres avec Samuel Beckett et Bram Van Velde, entre autres. Je dresse l'oreille. Samuel Beckett. Cela suscite particulièrement ma curiosité. Ma liste de livres à lire s'allonge, tandis que la lumière dehors décroît. Tu me parles de tes projets d'écriture? Je ne parle pas beaucoup. Ma culture littéraire est très scolaire, très universitaire. Je ne connais rien à la littérature contemporaine. Et toi? Tu regrettes d'en savoir si peu sur la littérature classique. Cet aveu me permet de me sentir moins petite à côté de tout ton savoir. Tu me cites tous les auteurs contemporains que je dois lire. Christian Bobin, Jérôme Garcin et d'autres que j'ai oubliés depuis. Tu t'insurges presque que je ne connaisse pas tous ceux que tu me cites. Chaque fois que l'on se verra ensuite, ce sera toujours des déferlantes de noms d'auteurs qui viennent pour la première fois chatouiller mes tympans. Parce que tu es comme cela, toujours cette envie de partager tes connaissances, d'enrichir les autres. Des noms d'auteurs locaux, des lieux de culture fleurissent dans ta conversation. Tu me laisses les récolter en m'incitant fortement à me rendre prochainement au café littéraire de la rue du 4 septembre. Là-bas, dans cette ancienne maison close aux boiseries finement travaillées, tu me présenteras à quelques-uns de tes amis et en particulier à Gabriel Legal, dont les textes m'enchanteront. Grâce à toi, je pourrais même en récupérer un pour l'étudier avec mes élèves. Plus tard, quand tu me croiseras, tu auras toujours une invitation à un vernissage à me remettre. Parfois même, tu iras voir ma mère pour lui en remettre une à mon intention. Tu me tiendras informé de tous les événements autour de Charles Juliet. Le vernissage de la belle exposition de Marie Morel au château des Alimes, la discussion tenue à la librairie Montbarbon à l'occasion de la sortie du 4e tome du journal. Tu me présenteras d'ailleurs comme une spécialiste de l'écriture de ton ami, après la lecture de mon mémoire que je t'avais laissé. Je te recroiserai avec surprise, ici, à Radio B. Tu m'expliqueras ton lien avec cette radio. Tu me parleras de ton émission, des prochains vernissages. Tu me demanderas même mon avis sur un texte de présentation que tu as écrit. J'en serai très flattée, touchée par cette bienveillance, cette gentillesse qui ne te font jamais défaut. Mais il est tard. Il fait nuit maintenant. Je prends congé de toi à regret, notre conversation intense m'a donné l'impression de vivre. Cette stimulation intellectuelle a été tellement forte qu'elle a réveillé chez moi l'envie de créer aussi, de faire un peu partie du monde auquel tu m'as ouvert les portes. Merci Christian. Laurence Tabouret.
Tandis que je songeais à Christian Lux, disparu en plein contexte crépusculaire de la pandémie, mais non pas à cause de la pandémie, je me dirige pour lui rendre hommage vers ma bibliothèque. J'y saisis une revue appelée « Insistance » pour y retrouver l'article d'un psychanalyste dont Christian appréciait les travaux. C'est Christian qui m'a fait connaître cette revue, la numéro 11. L'article est écrit par Alain Didier Veil. Il y est question de la formation du psychanalyste et d'une procédure appelée la passe. Il s'agit, dans ce texte, d'aller au-delà de deux écueils. La psychanalyse comme église, la psychanalyse comme institution d'un savoir maîtrisé. Au travail de lecture, j'ai alors consenti. Comment autrement rendre hommage ? Christian aurait pu mettre en exergue au petit groupe de lecture du mercredi soir dont il avait été l'initiateur enthousiaste. Tu as le droit de savoir. Il était passeur de culture. Non pas culture capitalisée pour briller, obtenir un titre, un avantage, un ascendant, mais culture conquise sur le confort de ne rien vouloir savoir d'une question que, pour un peu, vous pourriez toutefois déchiffrer, voire défriché. Passeur de culture, Christian Lux avait la disponibilité humaine de vous accueillir passant, passant qui s'arrêterait bien un instant pour prendre le temps de déplier une question. Lux, je crois, ça exprime en science quelque chose de la lumière. Ça lui convenait bien à Christian. Tour à tour, trublion et histrion, convoquant l'art, les sciences, la littérature, YouTube ou autres séries télé, il jonglait avec les mots et les choses. Inlassable explorateur de la vie psychique, il accueillait la faille pour l'amener à l'étonnement natif, créatif, jubilatoire. Il détestait que l'on parle à sa place. Mais pour rien au monde n'aurait fui devant la singularité de l'interlocuteur, ou l'aurait cataloguée. J'avance dans l'hommage. Anecdote de notre première vraie rencontre. L'hôpital qui nous emploie oblige à se former alors à un logiciel de saisie des actes de soins. Aux tâches, Christian s'adresse à l'ordinateur, au logiciel, à ces trucs dont le seul échec s'appelle un bug, et la réussite visée, une pensée universalisante, uniforme et sans reste. La mort psychique, quoi. Soudain, devant le mur de l'écran, Christian parle d'amour. Un domaine où le bug est un ratage, et le ratage une vraie entrée en matière. Les histoires d'amour commencent souvent ainsi. Je ne suis pas celui, je ne suis pas celle, que tu crois. Je continue d'avancer dans l'hommage. J'ai cité Alain Didier Weil. Ce psychanalyste avait abordé la question de la musique. Christian s'intéressait avec jubilation aux travaux de l'un et à l'écoute de l'autre, desafinado. En brésilien, ça veut dire désaccordé. C'est le titre d'une chanson écrite par Antonio Carlos Jobim et Newton Mendoza. Ils étaient les fondateurs d'un style musical, la bossa nova. J'ai appris que ce style a au début été raillé par les contemporains, lesquels se moquaient de ce que les interprètes y chantent faux. Cette chanson, chantée ici par João Gilberto, est une ode à la singularité assumée, source de création. Je la dédie au camarade Christian, à ses SMS rigolos et fulgurants, à sa manière de m'écrire « Notre famille ». Le grain de sa voix m'accompagne et m'encourage. Dieu sait où j'aurais accepté encore d'aller avec lui. Et plus d'un peut en dire autant, je crois.
Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme gratidão. Você pode encontrar, você com a sua música esqueceu o principal. E no desafinadas no fundo do peito bate calado. O peito dos desafinados também bate um coração.
Cher Christian, voici ce texte de toi que tu m'avais envoyé, écrit pour ta mère, que j'avais envie de partager en fait avec tes amis et tes auditeurs. Tu es silence et je t'écris. Mère, je suis Christian, ton fils. Qu'éprouves-tu en découvrant mon prénom ? Tu ne me connais pas. Plus exactement, tu ne me connais plus. J'avais 11 mois quand nous avons été séparés. As-tu pu l'oublier ? Que m'as-tu transmis sinon la vie ? Entre nous, qui a-t-il eu ? Pour toi, une vie portée, pour moi, une vie acceptée. C'est beaucoup, mais pas nécessairement suffisant pour l'enfant que j'ai été. Enfant qui erre encore dans ma mémoire. Il continue à te chercher. Tu es ma mère. Je n'ai pas la mémoire de ta peau, de ta voix. Tu m'as donné le jour, puis ce fut la nuit. Aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir mon cœur, sans colère, avec respect. Tu es ma mère de naissance, je ne peux rien dire d'autre à ton sujet. Tu es une mère inconnue, pourtant je t'aime. Rassure-moi, j'en ai besoin. Je ne peux être un étranger à tes yeux. À tes yeux, curieuse expression pour le coup, maladroite et trompeuse. De quelle couleur sont les tiens ? Pas la plus petite photo de toi. Je ne peux me représenter ton visage. Comment imaginer une mère que l'on n'a jamais vue ? Pour ne pas toucher le fond, je te vois comme une vieille dame aux cheveux blancs. Parfois, en m'endormant, je te prête les traits de Madeleine Renaud ou d'une belle grand-mère. Tu peux comprendre ça ? N'en prends pas ombrage. Il y a plus grave entre nous. J'ignore si tu es encore de ce monde et je frémis à l'idée que peut-être tu n'es plus. Je te veux vivante. Je ne sais où tu habites. Aucune trace de ta présence depuis la déchirure, rien. Seul ce désir sourd de te parler. Alors, je vais tenter de t'écrire. Pourquoi cette volonté de me mettre face à toi ? Et cette quête incessante ? Qui es-tu ? Qui as-tu été ? Comment te parler ? Que t'écrire ? Une image, ou mieux encore, une émotion liée à ma naissance demeure-t-elle en toi ? Au début de cette lettre, j'ai écrit le mot « mère ». Je n'ose pas t'appeler maman. Je pose sur le papier ta personne sans voix, creuse ton ombre dans la feuille. Il est éprouvant d'aller vers toi avec des mots. Ceci brûle mon être. Pour apaiser mon émotion si vive, je vais aller me balader en forêt. Les arbres sont des amis silencieux, ils sauront écouter mon chagrin si ancien, mais toujours neuf, comme l'attention que je te porte. Dernière lettre. Je t'ai confié tant de choses dans ces lettres. Ces heures à dévoiler la place manquante, à te chercher, à me trouver. T'ai-je manqué ? Comment te rendre vivante là où tu as disparu ? Comment concevoir ce paradoxe, cette folie ? Tu as disparu, mais tu n'es pas morte. Comment faire le deuil de ton corps perdu ? Sois rassurée, on ne fait jamais le deuil d'un disparu. On le porte dans un creux de la mémoire. Mais toi, ma disparue, tu n'es peut-être pas encore en terre. Arrêtons-nous un instant sur un détail important. Pour que ces lettres te parviennent, il me faudrait entreprendre de longues et pénibles recherches. J'aurais à mener une enquête, à trouver un détective, à téléphoner aux mairies, aux hospices, que sais-je encore. Ce n'est pas possible, mère. Pourquoi te chercher puis te retrouver ? En ai-je la force, le cœur, le désir ? Non. Je ne me vois pas traquer ton ombre. Encore moins rencontrer ton fantôme. Alors, je t'écris et je veux croire que tu n'es pas loin. Ces lettres, je les donnerai à lire à ceux et celles que j'aime. Ce 3 décembre 2011, je lis que tu as perdu ta mère alors que tu avais 1 an. Tu me ressembles donc. je n'avais pas retenu cet élément. Une dernière promesse, j'irai sur ta tombe.
Tout comme Christian avant sa retraite, j'exerce le métier de psychologue au CPA, et c'est du reste dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés il y a bien des années. Nous nous croisions peu au travail, mais nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier lors de groupes de travail que nous avions mis en place avec quelques autres autour de l'enseignement de Lacan. Si pour ma part j'abordais cela avec sérieux, voire gravité parfois, ça c'est mon côté besogneux, Christian, lui, amenait toujours une joie très communicative qui mettait un peu le bazar lorsqu'on se prenait trop au sérieux. Il n'empêchait pas le travail, c'était sa manière de travailler, à une certaine distance des dogmes et du docte savoir. Je me rappelle une séquence sur le stade du miroir et les constructions de Lacan basées sur la physique optique. Il s'était mis à improviser une mise en pratique en s'appuyant sur le sapin de Noël qui était là et une fenêtre qui en renvoyait l'image, avec son côté professeur tournesol et une mise en scène très drôle, et tout s'était terminé en éclat de rire. Dans le cadre de l'association AMSI que je présidais et dont il était devenu adhérent, nous avions demandé en 2015 à Christian d'intervenir lors de notre colloque annuel. Le thème l'imposait, les passions. Il s'était préparé avec sérieux et jamais sans humour et nous avait délivré un texte écrit à la première personne, celle de Claire, personnage imaginaire et mystique, comptant son rapport passionnel à Dieu. Il avait choisi d'être accompagné par un instrumentiste qui avait interprété des musiques baroques du XVe siècle, si ma mémoire ne joue pas des tours. C'était tout Christian, un travail d'orfèvre, très documenté, dans une langue poétique qui en avait surpris plus d'un. Plus récemment, en 2018, il s'était mis dans l'idée de regrouper des psys qu'il avait choisis, afin de nous proposer un travail à partir de ce qui le passionnait, l'art dans toutes ses occurrences et la clinique. Voici comment il nous interpellait. Nous viendrons déranger nos certitudes ou paresses. Si la théorie n'empêche pas d'exister, dit Sigmund Freud, la création artistique aide à vivre. Notre clinique revisitée, réinterrogée par une œuvre artistique, et la relecture féconde des écrits analytiques ainsi réveillés est ouverture bénéfique. Dans et par ce temps qui chemine sans courir, j'aimerais rester fidèle à Platon, qui nous invite ou incite à penser contre soi-même. Osons l'aventure et l'inattendu de notre parole, ensemble, séparément. Ces rendez-vous du mercredi soir m'ont beaucoup enrichi, tant par la découverte de personnages et de certaines de leurs œuvres, Jules Mougin, André Robillard, Charles Julliez et d'autres, que par le plaisir que nous avions de débattre, toujours en lien, chacun avec sa clinique et avec les autres, ensemble, séparément, comme il nous y invitait. Il est inutile de préciser que la parole y circulait avec une liberté rafraîchissante, dans une ambiance de gai savoir, même lorsque nous abordions le thème de la mélancolie. Nous avions dû interrompre nos séances à cause du confinement, et j'attendais avec impatience nos retrouvailles. Nous ne nous retrouverons plus, les mercredis soirs, boulevard Paul Bert, pour échanger, dans une ambiance tout en couleurs vives et joyeuses, même quand ça chauffait. Ce trublion histrio-poète m'aura autant fait rire que mise au travail avec ses saillies, ses associations d'idées fulgurantes, sa culture, son expérience, la rigueur de ses argumentations, sa subtilité, sans oublier sa chaleur humaine et son côté absolument solaire, tout ce qui le rendait si attachant. Christian restera pour moi un esthète de la vie psychique humaine, qui portait le nom de Luxe et que j'appelais pour le taquiner « ma lumière ». Il m'avait lui aussi épinglé d'un surnom qui me fait encore sourire, « Jean moins fille », substituant au trait d'union le signifiant « moins », « moins fille » étant le symbole chez Lacan de la castration et du manque structural. Tu me manques déjà. Un petit haïku personnel pour terminer qui m'était venu un jour de pluie. Sous un ciel gris pâle, je prends mon mal en patience. La lumière est en moi. Allez, salut l'artiste.
Jusqu'à ce que cesse ce sentiment de n'être qu'un reste. Cela te ronge et te bouleverse. tu te regardes, tu te détestes. Je l'ai porté, cet immense et lourd poids, je l'ai bordé pour toi. Quand tout ça bouillonne dans ma bouche, l'ultime remède qui touche à la source n'est autre que s'échapper de soi et la reconnaissance d'un ayant droit. Là je n'ai plus rien, je ne sens plus mes mains, mais je me souviens de toi. Je dois éclater en milliers de pièces. Je ne peux supporter toute cette maladresse qui me blesse. Tu as imprimé en moi cette tristesse devant cette plaie. Tu te retires et tu me laisses en moi le mal est fait, je suis touché à jamais. Je te sens tenir dans mon cœur comme au temps du soleil et des fleurs.
J'ai écrit ce texte en hommage à Christian. Une constance dans ce qui me vient au sujet de Christian. Dans ce que j'ai connu de lui, il n'aura cessé de m'étonner. Au sens plein et en son sens premier, sa disparition est un coup de tonnerre dans les lignes d'amitié. Je l'avais revu l'été dernier, amical, joyeux, presque pondéré, lui que j'avais toujours connu dans une ardente fébrilité de parole. Nous devions nous retrouver le 16 mars 2020,
pour une émission qu'il voulait consacrer à la poésie d'une amie, Anne-Marie Vourla. Hélas, Covid, quel vide. Mais la mort a rompu l'équilibre du temps, indifféré à jamais. Je n'étais pas des proches du cercle de Christian. Nos itinéraires de vie nous avaient éloignés, mais nous étions liés par l'histoire. Si je dis de la crèche à la fac, c'est une vérité, mais tout à fait déplacée, tout à fait à côté. J'ai rencontré Christian en 1980, alors qu'il faisait un stage dans une crèche de Lyon où je travaillais. Nous nous sommes retrouvés à la fin des années 80 tous les deux, avec aussi Jean-François Michon, à la fac de psycho pour suivre nos formations de psychologue. Entre la crèche et la fac, une expérience de travail partagée, le Bosquet, un service de pédopsychiatrie dont le projet se réfère à la psychanalyse. Je crois dans le fond que ce qui nous a liés, c'est notre investissement de la psychanalyse comme rencontre essentielle de ce qui donne ouverture à chacun de son histoire et dans la vie. Nous avions chacun fait la démarche d'une psychanalyse personnelle. Pour ce qui a secrété une amitié ample avec Christian et quelques autres, c'est d'avoir participé à la réalisation d'un projet d'accueil et d'accompagnement d'enfants autistes et psychotiques référés à la psychanalyse. Projet initié par Françoise Crozat, psychanalyste, soutenu au sein de son service par un psychiatre psychanalyste, le docteur Claude Bange. Expérience qui nous a mobilisés tous pleinement et rigoureusement dans une œuvre multiforme, avec sa part de créativité, mais aussi dans la rencontre de la tragédie du chaos psychotique. Une expérience âpre, exigeante, mais aussi riche et joyeuse. Christian, pleinement dans cette tonalité du vif, du pertinent et de l'impertinent, revisitant le Forda freudien par la chanson d'Iselin, par « Surtout ne te retourne pas », c'est juste là quelques bribes d'un minimum souvenir. J'évoque ainsi cette période intense, créative. Il me semble que le chemin de Christian, en suivant la voie qui l'amenait à être la voix qui porte les paroles des créateurs, poètes, peintres, écrivains, sculpteurs, être en quête de se dire, de faire entendre l'impossible et l'insolite de leurs existences, venait généreusement à poursuivre avec élégance ce qu'il en est de l'ouverture trouvée dans la psychanalyse en donnant la parole de donner vie. C'était aussi le choix assumé de Jacques Monchal, psychanalyste lyonnais, qui vient aussi disparaître. Christian, Jacques, tous deux des êtres lumineux, branchés du côté de l'inconscient, sans doute ouverts de plus loin comme était allé le débusquer Alain Didier Veil, à un mystère plus lointain que l'inconscient. Et l'enfant, il est comme toi, impatient, il a du cœur, il aime la vie et la mort ne lui fait pas peur.
À entendre ta voix entre nuages et étoiles, cher Christian, Jean Antonini.
Salut Christian, c'est moi, ni enluminure ni blabla. On se comprend, n'est-ce pas? Tu n'as pas répondu à mon dernier message et je ne comprends toujours pas pourquoi. J'ai eu l'heure au téléphone. Je fais comme tu aurais fait, ne t'inquiète pas. Tu le sais, jamais l'absent ne sera moins que le présent. Tu restes avec moi. À tout de suite, mon ami. Rodolphe Barry.
Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. When I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick and locked up in his room, you asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Goodbye, Andy.
Christian, toi qui étais tant attaché à Corvessia, c'est un illustre voisin qui accompagnera mon texte. Toi qui savais manier les mots avec justesse et précision, c'est un exercice plus que difficile que m'a demandé Elodie pour nous rappeler ta mémoire. Avec la qualité, la franchise, la transparence. Et j'en passe de nos échanges et surtout, de ton écoute et empathie à mon égard et de Maxence, il m'était impossible de botter en touche. En plein milieu de ce confinement, tu nous as joué un drôle de tour en tout cas. Personnellement, le coup a été rude. Il l'est encore. Ma peine n'est certainement rien à côté de celle de ta Laure, dans les bras de qui tu t'es endormi à jamais. Elle que tu aimais tant et qui a tout tenté pour te faire reprendre la vie. Nous étions au téléphone ce mardi 28 avril. Dans l'après-midi, comme d'habitude, nous avions échangé des conneries de mecs comme nous savions le faire. On raillait un peu l'actualité morbide de cette époque pour garder le sourire. Nous nous étions donné rendez-vous à la fin du confinement pour partager un plat du jour chez la Jeanne, notre point de chute. Malheureusement, la vie, ou la mort, en a décidé autrement. Et si la Covid ne t'a pas pris, c'est bel et bien ton cœur qui s'est arrêté. Nous n'avons pas eu l'occasion de fêter la fin du confinement ensemble. Ta disparition laisse un vide incroyable, un repère. Même si nous n'échangeions pas tous les jours, nous savions que nous pouvions compter l'un sur l'autre. Nous avions toujours des pensées l'un envers l'autre. La difficulté à faire notre deuil en plein confinement aurait certainement été un sujet de conversation en terrasse. Mais jamais je n'aurais imaginé devoir faire ce travail pour toi, mon ami, comme nous nous appelions. Quand nous nous sommes rencontrés, grâce à Jean-Paul, pour le basket à la JL, nous nous sommes tous demandés, et moi le premier, mais quel personnage Jean-Paul nous a ramené. Personnage, tu l'étais, parfois provocateur, mais tout en retenue et en pesant ses mots, parfois perché, mais avec toujours un regard aiguisé sur notre société. Tu savais capter l'attention et ta bienveillance suscitait le respect. Comme tout le monde, tu rêvais d'un monde idéal, d'où la chanson, où tout le monde prendrait sa place dans le respect des rôles des uns et des autres. Et pour illustrer ces images, je prendrai mon cas personnel où combien de fois tu m'as remonté pour que le papa que je suis garde le cap, pour prendre sa place en tant que père dans ma vie de papa solitaire. Il est courant lors des éloges de mettre en valeur la personne qui s'en va. Et pour toi, Christian, même si certains peuvent te reprocher des choses, pour ma part, je ne vois pas. Comme pour moi, dans nos discussions, ce qui t'intéressait le plus dans chaque situation, c'était l'autre. Son bien-être, même dans des situations difficiles et délicates. Encore une fois, cette empathie, que certains ou certaines ne reconnaîtront pas, c'est ce que je garderai de toi, mon ami. Mon ami à qui j'ai pu dire au revoir ce fameux mardi au téléphone. Ce dernier coup de fil, je le prends comme un don, un privilège, symbole de notre amitié et du respect qui nous liait. Où que tu sois, mon ami Christian, il y aura toujours des pensées pour toi. Je ne peux me résoudre à te dire adieu, mon ami, et c'est donc un bel au revoir que je t'adresse du plus profond de mon cœur. Laurent Tissot.